C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Cette reconnaissance, elle est immense dans notre pays et elle se traduira, le président l'a dit, dans les rémunérations. La revalorisation sera significative.
L'ouverture du Ségur de la Santé, Édouard Philippe évoque trois chantiers pour réformer notre système de soins. Revalorisation des salaires, investissement massif et nouvelle organisation de l'hôpital. Il promet que le quotidien des personnels soignants va changer dans les tout prochains mois et que la question du temps de travail n'est pas un tabou. La réouverture des bars et des restaurants en zone verte, on y est presque, on sera fixé jeudi. En attendant, les professionnels doivent s'équiper et ça coûte cher.
Pour un plexi de 1,50 m sur 50 de large, vous pouvez en avoir pour 500 balles. On ne sait pas trop où on va, on est dans le vague. Et en plus, pour pouvoir travailler, il va falloir qu'on investisse encore de l'argent. Et on est toujours les victimes au final.
Du nouveau pour le chômage partiel, dès le 1er juin, il sera payé à 85% par l'État et à 15% désormais par l'employeur. À la veille de la présentation d'un grand plan de relance du marché automobile, inquiétude chez Renault qui pourrait fermer certains petits sites. Depuis ce matin, les salariés de la fonderie de Bretagne bloquent leur usine. 400 jeunes pour une partie de foot près de Strasbourg. Stupeur des autorités et de tous ceux qui ont été témoins de la scène.
Ce que j'ai vu, un truc de fou,
hallucinant. La plupart sans masque. Ça hurlait, puis il y avait de l'ambiance. Dans le contexte actuel, c'est incompréhensible.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en nette hausse de 2,15%. Didier Hamot de Boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. C'est l'été, avant l'heure, du soleil, du ciel bleu, des températures très douces. Programme de votre météo pour demain et pour les jours suivants d'ailleurs. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir François Monboise. Il est le président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Un secteur que beaucoup ou envie, il est en pleine forme.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et pendant les prochains jours, les soignants auront les yeux rivés sur le Ségur de la Santé. Cette semaine, pour repenser l'hôpital, sous la houlette de Nicole Notat, l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, la crise sanitaire exige de nous de changer de rythme, c'est ce qu'a déclaré Édouard Philippe en préambule. Le Premier ministre qui a listé les chantiers avec déjà des promesses, Ève Roger.
Oui, Édouard Philippe a promis des choix forts, rapides et assumés. Nous voulons aller vite, a-t-il dit, pour dénouer les blocages du système. Évidemment, tout le monde de la santé l'attendait sur un point précis, la hausse des salaires pour les personnels hospitaliers. Et vous allez l'entendre, il n'a pas tari d'éloge sur les soignants en première ligne dans les hôpitaux pendant l'épidémie.
Je veux saluer, au nom du gouvernement, au nom des Français, les efforts individuels unanimement reconnus. Les journées et les nuits, dans l'épreuve, nous obligent. Ils ont révélé, s'il en était besoin, que certains niveaux de rémunération n'étaient pas à la hauteur d'un tel engagement. Cette reconnaissance se traduira, le président l'a dit, dans les rémunérations. Sur ce point, je le dis sans ambiguïté, la revalorisation sera significative.
Alors vous attendez comme moi la suite. Pour qui ces augmentations? Pour les infirmiers, les aides-soignants? Combien? Le Premier ministre n'a pas voulu donner de chiffres dès aujourd'hui. Édouard Philippe a aussi laissé la porte ouverte à l'assouplissement des 35 heures à l'hôpital. Ce n'est pas un sujet tabou, a-t-il dit. Il a confirmé aussi un investissement massif pour soutenir les hôpitaux, confirmant ainsi la promesse du président Macron. Mais pour avoir du concret, il va falloir attendre plusieurs semaines, jusqu'à la mi-juillet, le temps des négociations de ce Ségur de la Santé qui ne fait que commencer.
Les précisions d'Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, et une première réaction ce soir, celle d'une infirmière. Elle s'appelle Nolwenn Messad et elle a écouté avec beaucoup d'attention le Premier ministre.
Pour le moment, c'est de la redite, c'est des promesses qu'on nous fait depuis plusieurs mois. Ça reste un peu flou en fait. L'accélération des projets, c'est vague. Donc on attend de voir réellement l'effet en fait, que ça aura sur le terrain et en quoi consistent ces projets réellement. J'espère qu'il y aura bien une hausse au moins de 500 euros pour... Bah, je pense par exemple à ma collègue qui est là depuis 10 ans et qu'elle atteindra au moins les 2000 euros par mois. Est-ce que ça touchera bien tout le monde? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des infirmiers, mais faut pas oublier qu'il y a les aides-soignants, par exemple, ou les secrétaires qui touchent encore moins que nous. Donc est-ce que ça sera seulement pour les infirmiers ou est-ce que ça englobera bien tout le personnel hospitalier? Médicaux, paramédicaux et tous les à côté.
Des propos recueillis pour Europe 1 par Pauline Jacquot. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine par mesure de sécurité, et ce après une étude parue dans la revue The Lancet qui met en doute l'efficacité de ce médicament pour soigner les malades du Covid-19 et qui juge même son utilisation néfaste. Les Français sont dans l'attente des modalités de la deuxième phase du déconfinement. On sera fixé a priori jeudi après le Conseil de défense. Que pourrons-nous faire à partir du 2 juin, la limite des 100 km/h mètres sera-t-elle maintenue? Les lycéens pourront-ils retrouver les salles de classe? Et quid des bars et des restaurants? Ceux situés en zone verte devraient théoriquement pouvoir rouvrir la semaine prochaine. Et un accord se profile sur le protocole sanitaire. Carole Ferry, quelles seraient les conditions?
Oui, alors tout n'est pas encore validé puisque les derniers détails doivent justement être réglés ce soir. Mais selon nos informations, la règle des 4 mètres carrés par client serait finalement abandonnée. Vous savez, les 4 mètres carrés, c'était la surface que voulait imposer la Direction Générale de la Santé, mais qui faisait hurler les patrons de bars et restaurants puisque ça représentait 10 clients maximum dans une salle de 40 mètres carrés, assez peu rentable. Ce qui se profile donc, c'est 1 mètre de distance entre chaque table. Quand ça n'est pas possible, eh bien il faudra installer du plexiglas ou un équivalent entre les tables. Un autre point est encore en négociation, les comptoirs de bar. Les autorités sanitaires exigent que là aussi, il y ait une séparation. Selon les professionnels, il suffit juste d'équiper les barman de visières. Ces derniers points devront donc être tranchés ce soir. Les professionnels espèrent avoir un protocole précis, a priori demain, pour pouvoir rouvrir donc mardi prochain, le 2 juin. En zone verte.
Et on suivra ça évidemment de très près. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Toutes ces mesures de distanciation ont un coût, bien sûr, pour les restaurateurs notamment, qui s'équipent en vue de la réouverture, avec en particulier une ruée sur le plexiglas pour séparer, vous savez, les tables. D'ailleurs, les prix ont flambé ces derniers temps. Ce restaurateur près d'Aix-en-Provence a donc opté pour un système D afin d'éviter une facture trop lourde.
Pour un plexi de 1,50 m sur 50 de large, vous pouvez en avoir pour 500 balles. Ah ouais, ça claque, hein, ça claque. Il y en a déjà 6 en place, là. Bon, moi, j'ai pas opté hein, pour le plexi, hein, on est resté sur du PVC. Et ben, du coup, ben, on a divisé l'addition par 10. Et il y a de l'opportunisme, et surtout sur les prix qui sont pratiqués sur le marché, que ça soit sur les masques, hein, on l'a vu au début de la crise, hein, c'était la même chose. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour le matériel qu'on va avoir besoin, nous, pour la réouverture. On se dit qu'au final, si on n'est pas en place, on sera peut-être pas autorisé à ouvrir. Et si on est contrôlé demain, on peut nous refaire fermer. Ah, donc, on sait pas trop où on va, on est dans le vague. Et en plus, pour pouvoir travailler, il va falloir qu'on investisse encore de l'argent. Et on est toujours les victimes au final.
Rémi Kessler, le patron de l'Éden à Aiguille, près d'Aix-en-Provence, au micro européen de Nathalie Chevance. Les commerçants qui, eux, ont déjà pu rouvrir n'ont pas l'intention de brader leur stock dès le début des soldes. Ils n'ont rien vendu depuis 2 mois. Ils aimeraient bien, pendant quelques temps au moins, écouler leurs produits à 100% du prix. Ils réclament donc le report des soldes qui devait théoriquement débuter le 24 juin. Sur cette question, l'exécutif doit se prononcer la semaine prochaine. L'association environnementale Respire a, elle, déposé un référé liberté devant le Conseil d'État pour la réouverture des parcs et des jardins en zone rouge. Parce qu'ils n'ont pas accès aux espaces publics. Les gens s'agglutinent comme ils peuvent sur les trottoirs ou sur les bas-côtés. Ils ne respectent pas les distances de sécurité et s'exposent à un risque accru de transmission du Covid-19. La situation est absurde, dit son directeur.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal avec du nouveau pour le chômage partiel. Les modalités en effet évoluent. L'État ne prendra plus en charge la totalité. Ce sont les entreprises qui devront désormais assumer une partie du coût, Emmanuel Dutheil.
L'activité économique reprend un tout petit peu. Du coup, le gouvernement lève très partiellement son soutien à l'économie. Tout le monde salue depuis le démarrage de la crise cette mesure sur l'activité partielle. Cette mesure permet aux entreprises de garder les compétences et donc de ne pas licencier. Soyons clairs, hein, sans cela, ce serait bien évidemment intenable. À compter du 1er juin, rien ne va changer pour le salarié. Si vous êtes au chômage partiel, vous aurez toujours à la fin du mois 84% de votre salaire net. Mais tout ne sera plus payé par l'État. Les entreprises vont devoir assumer 15% du coût de cette mesure. Pour les entreprises toujours fermées par mesure sanitaire, rien ne change. Là, l'État continuera à payer à 100% le salaire. À fin avril, le ministère du Travail a estimé que près de 9 millions de salariés étaient effectivement couverts par ce dispositif de chômage partiel.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Un grand plan de relance du marché automobile français doit être annoncé demain. La pandémie a provoqué un arrêt brutal, bien sûr, des ventes de voitures. Moins 70% au mois de mars et près de 90% de baisse en avril. Et les experts craignent une reprise très lente, hein, les Français étant plus prudents et moins enclins à dépenser au sortir de cette crise. Chez Renault, plusieurs petits sites du groupe sont menacés de fermeture. On en a déjà parlé ici même. Le constructeur joue sa survie en négociant un prêt de 5 milliards d'euros garanti par l'État. Prêt crucial, mais qui ne suffira pas. Le groupe prépare un plan d'économie. Et depuis ce matin, des salariés bloquent l'accès à l'un de ces sites menacés, la fonderie de Bretagne dans le Morbihan. Charles Guyard.
Oui, en effet, depuis ce matin, la fonderie de Bretagne à Caudan est à l'arrêt. Des palettes et cuves métalliques empêchent même d'accéder au site. Un blocus destiné à faire plier Renault qui doit dévoiler vendredi un plan d'économie de 2 milliards d'euros. Plan qui inclurait la fermeture de 4 usines en France, dont celle-ci, près de Lorient, pour qui le constructeur vient pourtant de réaliser 20 millions d'euros de travaux après un incendie en mai 2019. D'où l'incompréhension totale des salariés, comme Louis.
Avec tout ce qui a été fait ici avec Renault, c'est le fou de l'argent par les fenêtres, quoi.
De l'argent, l'État, mais aussi les collectivités locales en ont injecté lors du rachat de la fonderie en 2009 par Renault. Plus de 8 millions d'euros que le maire de Caudan, Fabrice Velli, souhaiterait voir remboursé si la marque aux losanges décidait de fermer effectivement le site.
Cet argent public, là, clairement, il serait englouti, terminé, on n'en parle plus, donc c'est pas normal. Là. Si ça devait être le cas, cet argent-là, il faudrait être remboursé. Je pense qu'il y avait des conditions à l'époque d'investissement et de co-investissement et là, l'argent devra à un moment donné revenir dans le pays de Lorient. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas à cette situation-là. Ça voudrait dire que l'usine aurait fermé.
Une rencontre entre les syndicats du groupe et le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, doit se tenir demain en fin d'après-midi, juste avant les annonces d'Emmanuel Macron concernant la filière automobile. Quant aux 485 salariés de Caudan, ils sont appelés à une manifestation mercredi matin dans les rues de Lorient.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Volkswagen, condamné par la justice allemande à rembourser en partie un client qui avait acheté une voiture équipée d'un moteur diesel truqué. Un arrêt qui devrait faire jurisprudence et influencer des dizaines de milliers de procédures 5 ans après l'éclatement de ce scandale. On en vient à cette scène assez surréaliste. 400 jeunes rassemblés sur un terrain de foot ce week-end en banlieue de Strasbourg, bravant donc les consignes de distanciation. Tout est parti d'un appel sur les réseaux sociaux et voilà qu'un match est donc organisé entre deux quartiers, Le Neuf et Haute-Pierre. Arthur Nbaché.
Les images de vidéosurveillance sont saisissantes. Une ambiance de Coupe du Monde, 400 personnes agglutinées, zéro geste barrière. Yves habite juste à côté du stade.
Ce que j'ai vu, un truc de fou, hallucinant. La plupart sans masque, ça hurlait, puis il y avait de l'ambiance. Dans le contexte actuel, c'est incompréhensible. Avec tout ce qu'on vient de vivre, ça m'attriste parce que j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus de toutes les lois.
Au-dessus des lois, voilà ce qu'en dit l'adjoint de quartier, Serge Lair.
La police était là, la police municipale était présente. Après, 400 personnes rassemblées dans un même lieu, évidemment, on aurait pu envoyer 10 000 policiers et régler tout. Mais si c'est pour avoir le feu dans les quartiers après, c'est pas la peine non plus.
Haute-Pierre aurait gagné 3-2 contre Le Neuf au terme d'un match qui a plu à l'indulgent Patrick qui a regardé ça de sa fenêtre avec sa femme.
Lorsqu'on était jeunes, on a fait des conneries aussi, inconsciemment.
Ils sont enfermés, la plupart c'est des jeunes qui habitent dans des cités, tout ça. Donc les jeunes étaient, aller voir comme ça, heureux d'être
déconfinés. Hein.
Retenons le positif, sourit un voisin. Un match entre ces deux quartiers ennemis qui se termine sans bagarre, dit-il, c'est ça qui est fou. Strasbourg, Arthur Nbaché, Europe 1.
L'Europe continue de se déconfiner peu à peu. Les Espagnols ont retrouvé aujourd'hui leurs jardins et leurs plages. Les Italiens, leurs piscines et leurs salles de sport une semaine après les cafés et les restaurants. Des restaurants qui ont rouvert ce matin en Grèce, une semaine plus tôt que prévu. En Islande, ce sont les boîtes de nuit qui peuvent à nouveau accueillir les clients, alors que l'Allemagne, l'un des premiers pays européens à avoir déconfiné, envisage de maintenir les règles de distanciation sociale au moins jusqu'au 5 juillet face au risque d'une deuxième vague, tandis que le Japon a levé l'état d'urgence afin de permettre le redémarrage de la troisième économie du monde. En Inde, les vols intérieurs ont pu reprendre. Et puis une bonne nouvelle, l'Irlande n'a enregistré aucun décès ces dernières 24 heures. C'est une première. Et si la pandémie apparaît relativement sous contrôle en Europe, elle accentue ses ravages en Amérique latine, en particulier au Brésil, où le président Bolsonaro, hostile aux mesures de confinement et aux gestes barrières, a pris un bain de foule hier à Brasilia, sans masque, en serrant des mains et même en portant un enfant sur ses épaules. En France, le zoo de Beauval a annoncé aujourd'hui sa réouverture pour le 2 juin, la semaine prochaine donc. Il s'agit du parc animalier le plus fréquenté de France, situé à Saint-Aignan-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher. La capacité d'accueil sera réduite de moitié et le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs. Et puis l'Olympique de Marseille, ce soir, met fin au suspense. L'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas, restera bien à Marseille la saison prochaine. C'est vrai que les rumeurs de départ n'avaient cessé de gonfler depuis l'annonce de la fin du contrat du directeur sportif, l'Espagnol Zubizarreta, auquel le technicien portugais, adulé par les supporters marseillais, semblait avoir lié son sort. Donc finalement, André Villas-Boas reste à Marseille. Et puis un petit coup de blues peut-être ce soir pour les amateurs de tennis. Théoriquement, nous devrions être en train de vous faire vivre le tournoi de Roland-Garros. Mais bien sûr, les terrains de la Porte d'Auteuil sont déserts. Et il n'y a pas que nous qui sommes déçus. Les joueurs également, à l'image de Gaël Monfils.
Forcément, parce que c'est quand même mon tournoi préféré. C'est un moment sacré, on va dire, dans la famille Monfils. Et c'est sûr que ça fait très très bizarre de pas l'avoir, de pas vibrer en ce début de mois de mai et juin, de pas avoir ce fameux stress, de pas avoir vos questions. Alors tu te sens bien écoute, ça, j'étais un peu blessé, j'ai gagné 2 matchs sur terre battue. C'est pas le vrai Roland Garros en mai, mais ça restera comme le vrai Roland Garros même en septembre. Donc je serais très très content que ça ait lieu, quoi. Et je pense que tout sportif français va pousser pour que vraiment le tournoi ait lieu, quoi.
Gaël Monfils avec Corinne Boulou. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi, et avec ce soleil qui s'installe.
Oui, effectivement, Isabelle, grâce à un très bel anticyclone, le beau temps se poursuit demain et ça va durer pendant quasiment toute la semaine. Avec demain matin sur le nord et le nord-est, quelques petits voiles nuageux. Au lever du jour, dans le sud-ouest, les nuages bas seront présents. Ils vont très vite se dissiper. Sauf dans les Landes, où là, les entrées maritimes pourraient être un petit peu plus tenaces. Il fait beau sur toute la France, vous l'avez compris. Demain, quasiment rien à signaler. Le soleil brille dans un ciel sans nuages, avec tout de même des petits cumulus sur les reliefs des Alpes et des Pyrénées. Ça se passe en altitude, avec quelques petites gouttes possibles. Les températures, 9 à 13 degrés. Demain matin au nord, 9 à Metz, Strasbourg et Clermont-Ferrand, 13 à Paris et Limoges, 10 à 14 dans le sud, 12 à Albi, 14 à Marseille et Bordeaux et jusqu'à 19 sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, les températures gagnent encore quelques degrés, 21 à 24 degrés au bord de la Manche, 21 à 23 sur l'est de la France et jusqu'à 30 degrés dans le sud.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com. Juste avant, l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir François Monboise. Il est le président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, un secteur en pleine forme. A tout de suite.
Europe 1. Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h17, merci d'écouter Europe 1 et comme tous les soirs à cette heure-ci, vous le savez, on s'intéresse maintenant à la bourse. Avec vous Didier Hamo, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Avec un petit décalage, c'est pas très grave. La fermeture de Wall Street pour cause de Memorial Day, Didier, n'a pas empêché la bourse de Paris de remonter de plus de 2% ce soir.
Oui, effectivement, ça a flambé. Alors, il faut faire attention. Wall Street, effectivement, est fermée. La bourse de Londres aussi n'a pas fonctionné aujourd'hui. C'était Bank Holiday en Angleterre. Alors, ça explique des volumes assez réduits et peut-être aussi des écarts un petit peu plus forts que prévu avec cette hausse de plus de 2% du CAC 40, 2,15%. 4539 points, le CAC qui rebondit au-dessus des 4500 points donc. Et ce sont les secteurs qui ont le plus baissé ces dernières semaines qui sont remontés, en particulier l'automobile, Peugeot plus 6%, Renault plus 4%. Avant, vous en parliez tout à l'heure, avant l'annonce du plan de soutien à la filière automobile demain par le président de la République. Et puis les nouvelles encourageantes en Europe sur le front de la crise sanitaire, eh bien, aident le secteur aéronautique à se refaire une petite santé avec des rebonds assez nets quand même sur ADP, Aéroport de Paris, plus 9%, Airbus, plus 8,5%, Thales, plus 7% à 66,20€. En revanche, pas beaucoup de mouvements sur les devises. L'euro reste autour des 1,09 face au dollar. Même chose pour le pétrole qui reste autour des 35$ le baril de Brent après son gros rebond des dernières semaines.
Alors il y a quand même une exception, Didier, c'est le secteur de la distribution qui lui est resté à la traîne.
Oui, alors c'est pas non plus spectaculaire, il n'y a pas vraiment de casse, mais le secteur de la grande distribution recule effectivement en attendant d'y voir plus clair sur la reprise des ventes liées au déconfinement progressif. Pour l'instant, on n'a pas vraiment les chiffres. Il y a des rebonds ici et là, mais ce n'est pas encore très net. Ça explique les hésitations du secteur. Carrefour, moins 0,2%, 13,17€. Casino, moins 0,7% ce soir, 32€. Donc, pas vraiment d'entrain du côté pour l'instant de la distribution. Sur les autres places financières, en revanche, la hausse était nette à Francfort, plus 2,9%. Un petit peu moins nette, mais en hausse quand même. Bruxelles gagne 1,4%. Milan, plus 1,7%. Madrid monte de 2,4%. La bourse de Londres, on l'a dit, était fermée. On rappelle le CAC 40 en hausse. Nette hausse, 2,15%, 4539 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon toujours complet. Didier Hamo de boursier.com. Et il est temps de retrouver Emmanuel Duteil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir le président de la FEVAD.
Bonsoir François Monboise.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de la FEVAD, c'est l'organisation qui regroupe la quasi-totalité des sites de e-commerce en France. Première question très concrète. Bruno Le Maire, ce matin, disait qu'il sentait une petite reprise arriver. Est-ce que ça se voit sur les sites de e-commerce ?
Les sites de e-commerce ont la particularité qu'ils n'ont pas arrêté de travailler pendant le confinement. C'est-à-dire que la quasi-totalité des sites étaient encore ouverts. Beaucoup travaillaient avec des effectifs réduits, hein, surtout dans les entrepôts logistiques. Il y avait très peu de personnes. Mais les sites continuaient à fonctionner, à prendre des commandes et à livrer les clients. Donc, je dirais que nous, ce qu'on voit depuis les deux dernières semaines, c'est un retour à peu près à la normale.
À la normale, c'est-à-dire qu'un retour, vous êtes sur des performances d'avant la crise du Covid, c'est ça un retour à la normale ?
Alors, les performances ont été en fait un peu erratiques suivant les semaines, mais globalement ont été bonnes en termes de chiffre d'affaires et de volume vendu. Tout simplement parce que les gens confinés avaient bien besoin de faire leurs courses. Et comme la grande majorité des magasins étaient fermés, ils commandaient sur Internet.
Pourtant, dans les premiers sondages que vous aviez faits au tout début du Covid, vous disiez que oui, ça marchait pour l'agroalimentaire, oui, ça marchait pour des sites comme Cdiscount, Amazon, où on allait acheter ce dont on avait besoin. Mais il y avait des pans entiers qui étaient à l'arrêt, par exemple les sites de décoration ou ce genre de choses. Finalement, ça n'a pas été si grave que cela ?
Si, les pans dont vous parlez, le textile, la décoration, suit un peu la tendance globale. Et effectivement, ce n'est pas des catégories de produits que les gens achetaient autant qu'avant le confinement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que les semaines de confinement se prolongeaient, les gens avaient besoin d'acheter certains produits qui n'étaient pas jugés comme indispensables de première nécessité au début, mais qu'il fallait racheter parce qu'il y avait des enfants qui avaient grandi, parce qu'il y avait des appareils qui se cassaient, etc. Donc on a vu au fur et à mesure que le mois de mars passait, et puis en avril surtout, des ventes qui redémarraient dans à peu près tous les secteurs.
Et donc là, François Monboise, président de la FEVAD, vous nous dites, on est relativement similaire à l'avant-crise. C'est ça que vous dites sur la globalité, alors, si on fait une photo globale ?
Sur la photo globale, sur la globalité du chiffre d'affaires, oui, mais avec des conditions de travail qui sont extrêmement dégradées, puisque les conditions de travail, en gros, pour les sièges, les emplois de bureau, c'est beaucoup de télétravail, ce qui ne nuit pas trop à la qualité du travail. Mais dans les entrepôts, il y a eu la mise en place des mesures barrières, donc des changements de procédures dans les entrepôts, et ça ralentit énormément la façon de travailler, ce qui fait que les délais sont en général rallongés. Plus des soucis en amont et en aval, en amont de la part de fournisseurs qui ont parfois fermé, de transporteurs qui travaillent aussi de manière beaucoup plus compliquée qu'avant, et en aval, il y a encore un peu de l'engorgement au niveau des livraisons, c'est pas toujours facile. Donc oui, le service est assuré, mais j'irais, comme appellent les informaticiens, en mode un peu dégradé, c'est-à-dire que les délais sont plus rallongés.
Si on regarde à moyen long terme, il paraît évident que l'accélération du e-commerce va se poursuivre, parce que les gens vont sûrement avoir pendant plusieurs mois peur d'aller dans les magasins, ou les contraintes sanitaires qui ont été imposées là aussi au magasin font que c'est pas très agréable en ce moment d'aller par exemple s'acheter des vêtements. Est-ce que vous pensez que du coup ça va booster encore plus que ce que ça aurait pu être la croissance du e-commerce ?
C'est possible, oui, hein, c'est bien possible. Enfin, je dirais qu'il y a des raisons positives et des raisons négatives. Les raisons un peu négatives, ce que vous avez dit, ça peut être la crainte de contamination, de se déplacer, mais les raisons positives, c'est l'énorme praticité du e-commerce. Nielsen a publié un chiffre impressionnant disant qu'il y avait en gros 5 millions de foyers l'an dernier qui avaient effectué au moins une fois par mois un achat en drive, c'est-à-dire en produits de grande consommation qu'on va chercher dans un hypermarché. Et là, on est passé à 7,5 millions. Donc on a augmenté de 5 millions à 7,5 millions le nombre de gens qui se sont servis du drive. Et ce qu'on sait avec le drive, c'est qu'une fois qu'on a fait sa commande, sa première commande, je dirais, sur Internet, ce qui prend du temps, bon, les gens ont leur commande type de réassort de frigidaire et de placard et s'y tiennent. Donc il est très probable, oui, qu'on ait une montée assez forte du e-commerce, parce qu'on trouve tout et c'est pratique.
Est-ce que vous êtes capable de mesurer l'impact de la fermeture des entrepôts Amazon pendant cette crise du Covid ? Amazon, c'est de très 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 loin le plus gros site de e-commerce en France. Est-ce que vous pouvez mesurer cet arrêt ?
Alors c'est pas facile, parce qu'Amazon, comme vous le savez, est assez avare pour donner des chiffres qui concernent la France. Ce qui avait été constaté sur un panel de Fox Intelligence, c'est qu'ils avaient un peu régressé en part de marché immédiatement après la fermeture des entrepôts. Mais je crois que quand même, ils ont montré, en retournant le problème, qu'ils peuvent fonctionner avec les entrepôts fermés en France. Ce qui est quand même une performance, je crois, que Petit Site pourrait faire, et ce qui est assez dangereux pour l'emploi en France, parce qu'en fait, ils sont capables de fonctionner avec des entrepôts en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, et à assurer un service aux gens qui est dégradé en termes de délai de livraison. Les délais ont rallongé, mais quand même, les clients pouvaient commander les produits et étaient livrés. Et Amazon, il ne faut pas oublier qu'entre un tiers et la moitié, selon les catégories des produits, sont fournis par des marchands tiers. Et donc ça, ce service continue à fonctionner.
Bon, et ben on va surveiller tout cela, en tout cas dans les mois à venir et toutes ces évolutions. Un grand merci François Monboise, le président de la FEVAD, qui regroupe les principaux sites de e-commerce en France, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous, on vous dit effectivement à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. « Plus jamais ça », écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Ces témoignages des personnels des EHPAD font froid dans le dos et pourtant, il faut les lire et les entendre. Le Covid-19 est pour certains un virus saisonnier qui ne méritait ni confinement hier, ni gestes barrières aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la légèreté des Parisiens agglutinés dans certains lieux de la capitale ou de ces centaines de Strasbourgeois participants et assistants à un match de foot pour comprendre la légèreté de l'être humain. C'est le cœur très lourd pourtant que les personnels soignants des maisons de retraite, tout autant que les familles, sortent de cette crise sanitaire dont la suite reste à écrire. Le Ségur de la Santé, intitulé ainsi en référence à la localisation du ministère avenue de Ségur à Paris, ne sera pas complet si la situation des EHPAD n'est pas considérée comme essentielle dans cette France post-Covid. Les anciens sont moins une charge qu'une richesse, écrit donc Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Faillite, plans sociaux, ce choc que la France redoute, c'est le titre du Figaro. De nombreuses entreprises ne tiendront pas face à la crise lorsque le gouvernement retirera ses mesures de soutien. Des suppressions d'emplois massives sont redoutées à la rentrée. Commerce, la crise de trop pour les Échos. La pandémie s'est ajoutée aux dégâts des gilets jaunes et des grèves. Le textile paye aussi la déconsommation. Un tiers des aides bancaires ont été accordées aux distributeurs. Gouverner en terre inconnue, c'est le titre du journal La Croix. Dirigeants politiques et chefs d'entreprise prennent ces jours-ci des décisions cruciales, écrit le journal dans un contexte d'incertitude inédit. Panne sèche, c'est le titre de l'édito, cette fois de Florence Chédotal dans le journal La Montagne, qui revient sur la crise de l'automobile à la veille du grand plan qui doit être annoncé par le gouvernement. On a eu les baladurettes et les jupettes. Les primes sont une vieille recette à l'équation cause-effet garantie, pour peu qu'elles visent juste. Mais elles ont aussi, ces primes, quelques effets pervers à ne pas négliger, écrit la journaliste. D'autant qu'on ne parle plus aujourd'hui d'un secteur déprimé, mais bien frappé de pertes abyssales. D'accord, dit-on, pour que l'État ouvre son chéquier, mais sous condition d'énergies alternatives. Souci, les stocks qui prennent la poussière chez les concessionnaires sont à 96% thermiques. Autant dire que si la perfusion verte est vertueuse, elle n'en sera pas pour autant efficace en termes économiques sur un marché hybride et électrique, qui plus est encore peu accessible, même avec des primes et des bonus agressifs pour de nombreux Français. Les leçons de l'école à la maison, c'est le titre d'aujourd'hui en France. Depuis le 16 mars, les 12,4 millions d'élèves de notre pays ont été contraints de suivre leurs cours à distance. Alors qu'une partie d'entre eux a déjà retrouvé les salles de classe, quel bilan tirer de cette expérience inédite? C'est à lire dans Aujourd'hui en France. États-Unis et Chine, c'est la lutte impériale, titre Libération. Entamée avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, la confrontation entre les deux grandes puissances s'est encore durcie avec la crise du Covid. Entre propagande et accusations teintées de complotisme, les deux pays se considèrent désormais comme des ennemis. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous pourrez découvrir demain matin dans vos kiosques. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie.